dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, et puis ensuite le tome 23, et puis dans le premier chapitre de la première épître de Jean. Donc Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. Psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Premier épître de Jean, premier chapitre. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, et nous avons vu, et nous déclarons, et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. Verset 7, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, nous, son Fils, nous purifie de tout péché. Peut-être que nous le savons tous. Ici, dans les évangiles, nous avons sept fois cette expression qui se trouve dans les dernières lignes du chapitre 16 de Jean. Ayez bon courage. Sept fois. Autant que de jours de la semaine. Parce que, à chaque pas, et à chaque jour, j'ai besoin, et nous avons besoin, les uns et les autres, d'entendre cette exhortation. Ayez bon courage. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, moralement parlant, c'est peut-être la première fois, pourrions-nous dire, que cette parole est adressée à ce Bartimée qui est là, mendiant au bord du chemin, et qui crie après celui qui passe. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On essaye de le faire taire, il gêne, il dérange, mais la foi de cet homme est plein d'audace et de hardiesse, et il s'écrie d'autant plus fort, faisant appel à la compassion de celui qui passe, et ce n'est pas en vain. Jésus s'arrête. Et chaque fois que nous avons cette scène devant les yeux, j'aime à dire que, une fois encore, dans cette salle, en cet instant, à cette minute même, Jésus aussi s'arrête. Jésus s'arrête pour celui et qui aurait peut-être besoin de lui, parce qu'il est encore mort dans ses fautes et dans ses péchés, parce qu'il est encore dans les ténèbres, comme l'était ce Bartimée, aveugle de naissance.
aveugle, fils d'aveugle.
Peut-être y a-t-il quelqu'un, un enfant de parents chrétiens qui a entendu pendant longtemps,
des années, des appels qui lui ont été faits, entendus, il a lu, il a été averti, il sait ce que c'est que l'œuvre de Christ par sa mémoire, par ses facultés, par son esprit, mais dans son cœur. Dans ton cœur, petit enfant, jeune homme, jeune fille, dans ton cœur, dans ta conscience, est-ce que tu sais que le Jésus-Christ est ton sauveur à toi? Pas seulement le mien, pas seulement celui de ceux qui nous entourent, mais le tien. Dans Romains 14, Christ est mort pour ce mariage. Comme si la mort de Christ ne concernait qu'un seul individu. Comme si le sang précieux ne concernait qu'une seule âme. Comme si tout ce sang n'était que pour moi, n'était que pour toi. Comme si la mort de Christ ne concernait que ta propre âme et ton propre salut. Christ est mort pour ce frère. Ce frère pour lequel Christ est mort. Alors on peut lui dire, une fois encore, quand on s'arrête sur cette scène de Marc 10, qui termine le chapitre 10 de Marc, on peut te dire ce que je pense à cette âme qui est là, à ce petit enfant, à ce jeune homme, à cette jeune fille. Jésus s'arrête. C'est l'occasion. Il passait, mais il s'arrête. Eh bien, nous lui disons, nous vous disons, nous te disons, et bon courage. Lève-toi, il t'appelle. Est-ce que vous allez vous lever pour rencontrer Christ ce soir? On pourrait dire moralement que c'est le « et bon courage » du premier jour. La première rencontre avec le Seigneur. Il est là, il passe. C'est le premier jour, donc c'est le bon courage du dimanche, pourrait-on dire, en quelque sorte, surtout si nous savons que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de Christ. Parce qu'il est mort et ressuscité, toutes choses sont faites nouvelles en vertu de cette mort et de cette résurrection, justement. Vous êtes passé de la mort à la vie si vous acceptez Christ comme tel, comme votre sauveur, et que vous mettez au bénéfice de son œuvre, de sa mort et de sa résurrection. Et puis, nous avons dans les évangiles trois autres et bons courages qui sont la poursuite de ce premier. C'est dans Matthieu 9, dans Luc 13, dans Matthieu 9, nous l'avons deux fois, dans Luc 13, une fois, et bon courage, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Voilà ce que cette âme, ce dont cette âme prend conscience après cette première rencontre du dimanche, moralement, en figure, qu'elle est au bénéfice de l'œuvre de Christ, mais qu'elle prend conscience qu'elle est guérie, qu'elle est sauvée, parce que sauvée par la grâce et par la foi. Christ qui passe, c'est le plein déploiement de la grâce de Dieu, celle qui nous a été donnée dès avant les temps des siècles et qui nous a été manifestée au temps convenable dans la personne de Christ venu ici-bas. La grâce, la foi. La grâce, c'est Dieu. La foi, c'est la responsabilité de l'homme. C'est cette voile que l'homme est responsable de tendre pour recevoir le vent de la grâce de Dieu. Le vent de la grâce de Dieu souffle. Tendez, vous en avez la responsabilité, la voile de cette foi pour recevoir ce vent. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Nous voici donc le lundi, le mardi, le mercredi, et nous arrivons au jeudi et au vendredi, où là, les difficultés surgissent, et c'est le « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. » Marc 6, Matthieu 14. Une proposition en trois termes. Positif, ayez bon courage. Le centre, c'est moi. C'est la personne de Christ. C'est celui que nous avons à considérer dans le chemin.
C'est de lui que procède la force et le courage pour aller de l'avant, quand les vents sont déchaînés et que la tempête fait rage. Ayez bon courage, c'est moi, un côté négatif, n'ayez point de peur. Écartez cela, rejetez sur Dieu tout votre souci, combien cela est difficile. J'y arrive difficilement. Et qui peut dire ici même qu'il y arrive à chacun des pas difficiles de son chemin de rejeter toujours sur Dieu notre souci, car il a soin de vous. N'ayez point de peur. Cela est en rapport avec les difficultés que le chrétien peut rencontrer de par la première création. Le vent, la tempête, tout cela, c'est la première création. Le péché est entré dans le monde et tout dans la première création sur cette terre nous montre que nous sommes, que ce monde, que cette terre est sous l'emprise du péché. Il n'y a qu'à voir les maladies, quelles qu'elles soient, de quelque règne qu'elles soient, maladie des animaux, maladie des végétaux, maladie des personnes. Tout ce que nous rencontrons sur la terre comme difficulté inhérente à la première création. Voilà donc un ayez bon courage qui est en rapport avec elle et nous en avons besoin. Quand on voit autour de nous tant de personnes affligées, souffrantes, malades, tant de croyants, de croyantes qui sont sur un lit d'hôpital, de clinique, mais aussi tout simplement chez eux, sur une chaise longue, ne pouvant bouger, supportant de telles douleurs, de telles souffrances, qu'on ne sait que dire, sinon, ayez bon courage, mais pas de ma part, de la part de celui qui dit, c'est moi. Voilà cette personne devant les disciples, au milieu de telles difficultés. Et nous en arrivons au septième ayez bon courage, celui que nous avons eu, que l'on pourrait appeler le bon courage du samedi. Parce que, voilà, il est en rapport avec le monde. Et vous avez de la tribulation dans le monde. Le monde, c'est plutôt cette société dans laquelle nous nous trouvons, avec ses côtés de violence, de corruption, de mensonge, tout ce qui nous assaille tous les jours, tout ce dont nous souffrons aussi, et qui est différent, nous le comprenons bien, des difficultés en rapport avec la première création. Eh bien, voilà que le samedi, Christ est dans le tombeau. Par sa mort, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, il a fallu qu'il entre dans la mort. Et pendant ce temps, le monde, et celui qui en est le prince, Satan, se réjouissent parce qu'ils pensent s'être débarrassés à tout jamais du prince de la vie. Enfin, Satan a réussi la dernière et septième de ses entreprises pour éliminer celui dont il veut toujours, depuis le commencement, prendre la place, frustrant Christ de la gloire qui lui revient. Et il semble que c'est le monde qui est vainqueur. Il semble, pendant ce samedi, que Christ n'est plus là. Les disciples l'éprouvent, nous en avons un témoignage dans le chapitre 24 de Luc, ils sont tout tristes, ils espéraient, et puis voilà qu'il n'est plus là. Mais alors même que le monde semble manifester toute sa puissance et presque sa victoire, le Seigneur dit à ses disciples, « D'abord, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Il pense à ce qui va lui survenir tout à l'heure quand les disciples vont se disperser et l'abandonner, mais justement il ne s'arrête pas à cette pensée. Et dans ses dernières paroles
à ses disciples à la fin de ces merveilleux chapitres qui commencent avec le 13, il se tourne vers eux et il leur dit, mais je sais ce qui vous attend, je sais quelle est votre condition, je sais ce que vous allez éprouver, vous avez de la tribulation dans le monde. Eh bien, ayez bon courage, parce que moi j'ai vaincu le monde. Le monde peut paraître vainqueur, en fait c'est Christ qui est vainqueur. Nous sommes du côté du plus fort. Il a remporté la victoire à la croix. Et quant au monde, quant aux principautés, quant aux autorités, il les a produites en public et il les a dépouillées à la croix. Elles-mêmes ont été, malgré elles, obligées de reconnaître par ce panneau écrit en trois langues le pouvoir économique, politique et religieux. Il a été obligé de reconnaître, de confesser, malgré elle. Mais Dieu l'a permis, car il a les yeux sur son sein et il veut que ses droits soient reconnus, même quand il est entre deux malfaiteurs, même quand il est au plus profond de la honte, il faut que soit reconnu par ses autorités, ses principautés, qu'il est Jésus. Cet homme, né de femme, né sous la loi, placé dans une crèche, Jésus, fils de David, qu'il est le Nazaréen, le méprisé, cette bourgade de Galilée, pour laquelle on n'avait aucune estime, celui pour lequel on n'avait aucune estime, Jésus, Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs, le roi de cette populace qui a crié « crucifie, crucifie-le », qui a ajouté même que son sang soit sur nous et sur nos enfants, eh bien, voilà le roi. N'est-ce pas? J'ai vaincu. Alors, dans la puissance d'une vie impérissable, il peut entrer dans la mort pour régler la deuxième question, la première étant celle des péchés, du péché. Et la deuxième, c'est la question de la mort. Par sa mort, il rend la puissance, il y avait le pouvoir de la mort, et il va ressusciter. Il va apparaître le premier jour de la semaine, ressuscité par sa propre puissance, vivifié par l'Esprit, ressuscité par la gloire du Père. Et il se présente à ses disciples. Il avait dit, sauve-moi, délivre-moi. Tu m'as répondu, dans tous les corps des Juifs. Le voici, au matin du premier jour de la semaine, j'annoncerai ton nom. Il n'a rien de plus pressé que de paraître devant les siens auxquels il s'est adressé de cette manière. Vous avez la tribulation dans le monde. Ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde, et sitôt ressuscité, c'est encore vers eux qu'il vient. Mais, pour parler de ce nom, de son Dieu, mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. J'annoncerai ton nom, c'est lui qui entonne la louange au milieu de ceux qu'il n'a pas honte d'appeler ses frères. Quel combat, quelle résurrection, quelle gloire après un tel abaissement. Après une telle mort, après un tel sacrifice. Dans ces sept ayez bon courage, nous avons Christ avec nous. Le chemin du croyant est difficile. Nous avons rappelé quelque chose. Eh bien, dans cette expression, dans le fait qu'il vient vers ses disciples, quand la mère est tourmentée, quand il se tourne vers eux, près d'aller à la croix à la fin de Jean 16, eh bien, dans tout cela, il y a la pensée de Christ avec nous. Dans les difficultés, dans la tristesse, dans l'angoisse, étroite et pied, dans la tristesse, nous avons rappelé ce qu'il y a en sympathie de la part du Seigneur. Et c'est un côté précieux dans la vie du croyant, dans la carrière du croyant, de savoir que Christ est là avec nous. Christ avec nous. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Quel centre de ce psaume, quelle importance de la partie centrale de ce psaume 23.
Christ avec moi. Dieu est avec moi. Quelquefois, on peut sentir une solitude profonde. L'apôtre Paul l'a connu. Non seulement à la fin de sa vie, on pense toujours à la fin de la deuxième épître à Timothée, tous m'ont abandonné, mais avant, épître aux Philippiens, chapitre 2. Je n'ai personne avec moi qui soit animé du même sentiment. Il peut y avoir dans la vie d'un serviteur, dans la vie d'un croyant, il peut y avoir ce sentiment de solitude et on voit dans le chapitre 9 de Luc la scène de la transfiguration et comment elle se termine dans cet évangile. Jésus se trouva seul. Voilà le Fils de l'homme, seul. Lui a été parfaitement seul. L'homme humble et solitaire, plein de pitié pour nos malheurs. Et à l'exemple, à l'instar, du divin modèle, un croyant peut se sentir seul. Mais ce n'est qu'une impression peut-être passagère, parce que en regardant un peu à côté, on sait que Christ est là. Tu es avec moi. Qui l'a éprouvé. Jeune ou plus âgé. Il y a des détresses d'enfants. Il y a des solitudes d'enfants. Et puis même quand on en a plus de 70 ans, on peut aussi se sentir tout seul. Même accompagné. Et c'est sans doute une des désolations les plus grandes, si nous élargissons la considération, des désolations les plus grandes du monde dans lequel nous sommes. Environnés, populations environnées d'habitants, on est seul. Un grand ensemble, dans une ville, combien de logements, combien d'habitants, et puis en plein milieu de ce logement, au 18e étage, 10 étages au-dessus, 17 en dessous, seul, tout seul dans un appartement, et pourtant combien de milliers tout autour, sur une autoroute, les voitures passent, vous êtes au bord, peut-être arrêté par telle ou telle circonstance, vous êtes tout seul. Et pourtant, il passe dans un sens, dans l'autre, tout seul. Et dans le monde, combien d'âmes sont seules? Non seulement les croyants qui peuvent éprouver cette solitude, mais ces âmes auxquelles nous pensions au début de réunion, mendiant au bord de la route, plongés dans les ténèbres, seuls. Mais Jésus s'est approché. Il s'approche de celui qui a besoin d'être sauvé et il s'approche du croyant qui même peut avoir marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal. Tu es avec moi. C'est un des côtés de ce psaume 23. Le fait que Christ est avec nous, il est avec nous dans le chemin. Il y a un autre côté. C'est nous avec Christ. Dans le sanctuaire. Et ce psaume 23 a été appelé, nous savons bien, le psaume du sanctuaire. C'est un psaume où nous avons d'un côté Christ dans nos circonstances, Christ avec nous dans le chemin, non seulement dans la vallée de l'ombre de la mort, mais encore nous conduisons des sentiers de justice, nous menons des eaux paisibles, nous conduisons vers des grands pâturages. Dans ses soins variés, il est là, marchant avec les siens. Et puis d'un autre côté, c'est le psaume du sanctuaire. C'est nous avec Christ. Et c'est bien deux côtés importants de la vie chrétienne, à savoir que nous avons à marcher ici-bas, avec les difficultés rappelées, et puis d'un autre côté, en même temps, nous sommes dans le sanctuaire. Nous avons à jouir du sanctuaire. Ce n'est pas tantôt le sanctuaire, tantôt la marche ici-bas, cela va ensemble. Et c'est pour cela que dans ce psaume 23, nous avons les deux côtés. On a souvent remarqué, il y a peut-être plusieurs dizaines d'années, que ce psaume était au présent. Dans la plupart de ces expressions, il est au présent. C'est le psaume du présent. Le 22 est le psaume du passé. C'est le psaume de l'œuvre accomplie à la croix, du sacrifice au péché, de la vengeance de Christ pendant les 3 heures de ténèbres. Le psaume 24, c'est le psaume du futur, c'est le psaume de la gloire, c'est le psaume du roi pour l'entrée duquel il faut que les portails éternels s'élèvent. Mais au milieu, nous avons le psaume du présent, le psaume qui nous caractérise, nous croyant, cheminant sur la terre tel que nous l'avons rappelé. La plupart des expressions sont au présent. Toutefois, nous en avons 4 qui sont au futur. Je ne manquerai de rien. Je ne craindrai aucun mal. La bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie. Et puis quatrièmement, mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Et disons justement à propos de ce dernier verset que nous avons d'une manière particulière là les 2 côtés. La bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie. Eh bien, c'est Christ avec nous. Voilà cette bonté et cette gratuité qui accompagnent le voyageur comme une provision de grâce. Cela nous suit comme des bagages qui accompagnent un voyageur qui va dans son chemin. Il y a, il faut le dire, à ce propos, une remarque à faire. Christ est présenté quelquefois comme étant devant nous. Nous le suivons. Cela, c'est l'expression de la dépendance. Nous avons également Christ marchant avec nous, à côté de nous. Cela, c'est davantage la notion de la communion. Et puis, nous avons ici cette provision de grâce qui accompagne et qui suit le voyageur. Cela aussi, c'est Christ dans le chemin avec les siens. Premier côté. Deuxième côté, mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Il y a d'une part le côté de nous avec Christ dans le sanctuaire, présentement, déjà, ce dont nous pouvons jouir par grâce. Et nous allons voir tout à l'heure comment on entre dans le sanctuaire. Il y a 3 clés. Et puis d'autre part, ce dont nous jouirons plus tard dans la maison du Père, le sanctuaire étant présentement comme une anticipation de la maison du Père. Le sanctuaire, ce n'est pas les lieux célestes. Dans les lieux célestes, il y a des bénédictions, mais il y a aussi des ennemis. Le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens nous le montre clairement. Et il y a un combat à mener. Mais dans le sanctuaire, il n'y a pas de combat. Tout est paix, repos et lumière. Dans le sanctuaire, tout nous parle de Christ. Et tout parle de Christ pour le regard de Dieu, pour le regard de son Père. Et c'est certainement le dernier lieu, on peut le dire entre parenthèses, où il convient de mener cette opération militaire qui est contenue dans l'expression si souvent répétée « assiéger le trône de la grâce ». Il ne s'agit pas de prendre le trône de la grâce en faisant le siège comme le font les ennemis quand ils veulent prendre une ville. Non, nous nous approchons avec confiance du trône de la grâce. Ce n'est qu'une expression. Nous savons bien que quand nous disons assiéger le trône de la grâce, il n'y a pas dans celui qui le dit la pensée de cette opération militaire. Mais quand même, si nous réalisons davantage ce que c'est le sanctuaire, ce lieu de paix, de repos, de lumière,
Eh bien, je crois que nous serons conduits à éviter cette expression.
Donc voilà le sanctuaire comme anticipation de la maison du Père, différent des lieux célestes. Et il est intéressant de considérer dans les psaumes, justement, les différentes expressions qui sont employées pour nous parler du sanctuaire d'une part, et pour nous parler de ce qui est pour nous les lieux célestes, c'est-à-dire le pays. Et généralement, quand il est question du sanctuaire, avec d'autres mots, d'autres expressions, il n'est pas question du pays. Et nous trouverons dans les psaumes différents mots qui sont employés pour nous parler du sanctuaire. L'habitation éternelle, la maison éternelle, les parvis, le temple, ses palais, sa tente, le secret de sa tente, sa loge. Il est certain que ce sanctuaire est en rapport avec le temple, avec le tabernacle. Mais remarquons bien que, sauf erreur, il n'y a pas de précision, de différence exprimée entre le lieu saint et le lieu très saint. De toute manière, quand il s'agit du sanctuaire, c'est le lieu de l'habitation de l'Éternel. C'est le lieu tabernacle du temple où tous les composants du temple, du tabernacle, parlent à celui qui y entre et qui y habite, parlent de Christ. De la même manière que Dieu, le Père, peut considérer dans ce lieu de son habitation toujours la personne qui est l'objet de ses délices, l'objet de sa direction, celui en qui il a trouvé son plaisir, celui qui a revendiqué ses droits, qui a accompli pleinement et parfaitement sa volonté. Voilà le sanctuaire. Nous avons dit qu'il y avait quatre verbes qui étaient au futur, et ces quatre verbes expriment l'assurance de la foi, la fermeté de la foi, la confiance de la foi. Voilà que le psalmiste est sûr qu'il ne manquera de rien, qu'il ne craindra aucun mal, que la bonté et la gratuité l'accompagneront, et que son habitation sera dans la maison de l'Éternel. C'est une des premières clés nécessaires pour entrer dans le sanctuaire. La clé de la foi. Qu'est-ce que nous disons en Hébreux 10 ? Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints, etc., en pleine assurance de foi. La foi est la conviction des choses qu'on ne voit pas. Et justement, le sanctuaire est quelque chose qui est complètement fermé à la chair. L'œil humain, la raison humaine, la sagesse humaine ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans le sanctuaire. Ils ne peuvent rien y considérer. Et si même la chair, un homme dans la chair, pouvait entrer dans le sanctuaire, il s'y ennuierait bien vite. Sa place, cette place n'est pas pour lui. Tant il est vrai que la chair est inimitié contre Dieu, toujours. Et la chair du croyant, qui est exactement la même, aussi mauvaise, et aussi inimitié contre Dieu que celle de celui qui est encore dans ses péchés, la chair du croyant n'a pas non plus sa place dans le sanctuaire. La raison humaine n'a pas sa place dans le sanctuaire. Gardons d'entrer dans le sanctuaire avec autre chose que la foi. Avec l'autre chose que la conviction des choses qu'on ne voit pas et l'assurance des choses qu'on espère. Et nous aurons l'occasion de voir quelque chose d'autre à ce sujet. Peut-être que je voudrais en parler tout de suite, puisque cela donc, eh bien, disons-le tout de suite. Ruth 3 et Jérémie 18 nous apprennent la position morale dans laquelle il faut entrer dans le sanctuaire. Dans le chapitre 3 de Ruth, Naomi est comme une figure du Saint-Esprit qui conseille Ruth quant à sa conduite. Lave-toi, oint-toi, retenons cette expression parce que c'est en rapport avec la troisième clé du sanctuaire. Lave-toi, oint-toi, et va vers Boaz, et de faire connaître tout ce que tu auras à faire.
Et Ruth fait ce que Naomi lui dit.
Et elle descendit dans l'air. Et dans Jérémie 18, il est dit au prophète d'aller dans la maison du potier. Descend dans la maison du potier. Et là, il va entendre les paroles de l'Éternel et il va voir l'Éternel à l'ouvrage quant au vase qu'il forme. Retenons ces deux expressions, descendre dans l'air, descendre dans la maison du potier. Il n'appartient pas à l'homme de rester droit debout devant l'Éternel pour entrer dans le sanctuaire. Il faut s'abaisser. Si nous voulons retenir quelques leçons dans le sanctuaire, si nous voulons jouir de cette communion dont il est question dans le premier chapitre de la première épître de Jean, il nous faut descendre, toujours. Comme quand on priait la manne. Au matin, tu verras la gloire de l'Éternel. Eh bien, pour saisir ce qu'était la gloire de l'Éternel, il fallait que, devant cette petite chose grenue, mais si belle, au parfum si savoureux, au goût délectable, il fallait que l'Israélite se baisse de toute sa hauteur. Dans les choses de Dieu, si nous restons debout, c'est-à-dire avec notre mesure d'homme, avec notre intelligence humaine, avec nos moyens humains, eh bien, nous irons à un échec, c'est-à-dire que nous ne comprendrons pas, nous ne pourrons pas entrer, particulièrement à propos du sujet qui est devant nous, nous ne pourrons pas entrer dans la communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Parce que justement, le sanctuaire est le lieu moral où se réalise la communion. Il faut s'abaisser. Il y a, il faut le dire, puisque nous parlons de l'attitude, il y a la nécessité pour entrer dans le sanctuaire de réaliser ce qu'est le chemin nouveau et vivant que Jésus lui-même nous a tracé au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Donc cela appartient, ce chemin du sanctuaire et cette entrée dans le sanctuaire, à ceux qui sont passés de la mort à la vie et ceux dont ceux qui sont tout nets, pour reprendre l'expression de Jean 13, et pour reprendre l'expression d'Hébreux 10, ceux qui ont les cœurs par aspersion purifiés de mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Voilà un chemin nouveau et vivant qui nous amène justement les lieux saints, figure du sanctuaire, en rapport avec le sanctuaire. Nous y entrons par cette première clé qui est la foi, en pleine assurance de foi. Nous y entrons avec cette attitude qui consiste à nous abaisser, à descendre dans la maison du potier ou dans l'air de Boaz, et avec des corps lavés d'eau pure. Nous sommes tout nets comme dans Jean 13, c'est clair. Nous avons dit que le sanctuaire est le lieu moral de la commune. Et à ce propos, on peut ajouter que nous parlons de communion. Le mot technique de la communion, c'est demeurer. Demeurer en lui. Et quand nous lisons avec cette pensée que ce mot-là est l'expression de la communion, quand nous lisons ce que nous avons dans ces chapitres 15 et 16 de Jean, et puis la première épître de Jean, alors nous comprenons peut-être un peu mieux tout ce qui découle de la communion réalisée, du fait que nous demeurons en lui ce par quoi notre joie est accomplie, et nous l'avons lu dans 1 Jean 1. Une joie accomplie, achevée, parfaite. Eh bien, il faut pour cela demeurer en lui. Demeurer, c'est continuer à être. Garder, c'est continuer à avoir. Persévérer, c'est continuer à faire. Continuer à être, demeurer. Continuer à avoir, garder. Continuer à faire, persévérer. Pourquoi rappeler ces trois mots, demeurer, garder, persévérer? Parce qu'ils nous concernent d'une manière particulièrement pratique dans ces jours, et nous les retrouvons dans des épîtres que nous connaissons bien, comme 1 Timothée, 2 Timothée, aussi dans l'Épître aux Hébreux, toutes les vies qui nous enseignent à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras. Baisser les bras, et justement dans Hébreux 12, il est question de redresser les mains lassées et les genoux défaillants. Tenir ferme, jusqu'au bout. Garder,
persévérer, demeurer. Nous ne pourrons pas garder et persévérer si nous n'avons pas à cœur, avant toute chose, de demeurer. Parce que la communion réalisée en Christ et avec Christ dans le sanctuaire est la source de tout. C'est la source de notre joie, c'est la source de notre force, c'est la source de notre vie, c'est la source de notre conduite, de notre marche, c'est la source de notre service, c'est la source du culte. C'est la source de ce culte en esprit, en vérité, que nous avons à présenter à Dieu comme étant des sacrifices agréables par Jésus-Christ. La communion se réalise dans le sanctuaire. Le mot technique de la communion, c'est demeurer. Et le moyen technique, l'instrument de la communion, symboliquement parlant, bien sûr, c'est la table. C'est à la table que se réalise cette communion. Tu dresses une table, tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Une parenthèse à propos de la table dans Jean 13. Avant le lavage des pieds, il est question du souper. Après le lavage des pieds, alors il est question de la table. La communion peut être réalisée à partir du moment où les disciples sont dans les baptêmes, qu'ils ont une part avec Christ. Alors, il y a la table. Avant, c'est le souper. Une part avec Christ, c'est cela la communion. Une part en Christ, c'est la position. C'est les lieux célestes. La communion se réalise dans le sanctuaire. C'est une part avec Christ. Le moyen technique, l'instrument, c'est la table. Et dans ce psaume 23, tu dresses devant moi une table. C'est la réponse magnifique en grâce et en gloire au défi du peuple d'Israël. Dans le psaume 78, verset 10, ils parlaient contre Dieu et dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Entre parenthèses, l'autre défi du peuple, c'est dans le chapitre 17 de l'Exode, le Dieu est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Et Dieu a répondu, verset 7, l'Exode 17, Dieu est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Et Dieu a répondu d'une manière éclatante dans la personne de Christ quand il est venu chez les siens. Mais aussi, comme Christ a été crucifié au milieu, entre deux malfaiteurs, c'était une réponse à ses défis. Une réponse en grâce et en amour. Le don de son Fils, qui est venu au milieu des siens, mais qui est venu aussi au milieu de la créature, au milieu des créatures que nous étions, des brigands, des malfaiteurs, ne méritant que le jugement. Ceci dit, entre parenthèses, tu dresses donc devant moi une table qui est une réponse à ce défi du peuple, une réponse en grâce. La deuxième clé pour entrer dans le sanctuaire, c'est le Saint-Esprit. Le seul mot, la seule expression qui soit au passé dans ce psaume, c'est « Tu as moi ma tête d'huile ». Le psalmiste ne va pas raconter ses expériences et sa vie. Ce n'est pas le lieu de faire état de ces choses. Il peut se faire quelquefois qu'une biographie soit édifiante, mais en général, nos expériences et notre biographie ne concernent que nos rapports avec le Seigneur, avec ce qu'il a voulu nous apprendre par les expériences et les difficultés traversées, voulant former en nous le Christ, voulant nous apprendre le Christ. Mais David a retenu quelque chose. Cette personne est là devant lui. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que l'Éternel fait, c'est cela qu'il raconte, c'est cela qu'il dépeint au présent. Au présent toujours, sauf donc ces quatre verbes qui étaient au futur, que nous avons relevé, qui soulignent l'assurance de la foi, et puis maintenant ce seul verbe qui est au passé, « Tu as oint ma tête d'huile », une allusion symbolique, à l'onction de l'Esprit. Si nous lisons ce verset bien connu de la fin du chapitre 1er de la deuxième épître de Corinthiens,
2 Corinthiens 1, 21. Nous avons dans ce verset ce que Dieu opère par son esprit qui est présenté sous 4 aspects différents dans ce verset 21 de 2 Corinthiens 1, le lien, le facteur d'union, il nous lie à Christ, il nous unit à Christ, avec vous. Il n'y a pas seulement une âme, mais il y a les autres. L'autre parenthèse, quand nous lisons l'Éternel et mon berger, c'est que justement, le psalmiste a conscience des autres. Quand on parle d'un berger, c'est qu'il y a un troupeau. S'il y a un troupeau, c'est qu'il n'y a pas seulement une brebis, mais c'est qu'il y a d'autres brebis. Donc l'Éternel est mon berger, c'est l'idée du troupeau. Et dans 2 Corinthiens 21, revenons à ce verset, ce qui nous lie, ce qui nous unit à Christ avec vous, premièrement. Deuxièmement, ce qui nous oint, celui qui nous oint, celui qui nous a oint. Quatrièmement, celui qui nous a scellés, le sceau, troisièmement, et quatrièmement, les armes de l'esprit. L'union, l'onction, le sceau, les armes. Voilà le Saint-Esprit présenté dans ce verset, et ce qui nous concerne, nous, dans le sujet qui est devant nous, à savoir la communion et le sanctuaire, c'est l'onction de l'Esprit. Et aussi le fait que nous sommes unis à Christ. L'onction de l'Esprit, comme nous lisons dans 1 Jean 2, par laquelle nous connaissons toutes choses. Et nous savons bien, pour le lire dans l'Évangile de Jean, dans les chapitres 15 et 16, que le Saint-Esprit nous annonce, prend les choses de Christ pour nous les annoncer, qu'il rend témoignage de Christ, qu'il le glorifie. Voilà donc ce par quoi aussi nous pouvons entrer dans le sanctuaire. C'est la deuxième clé, c'est le Saint-Esprit. La troisième clé, c'est la parole. Comme nous lisons par exemple dans le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, que nous avons à nous approcher avec confiance du trône de la grâce, il est question avant de la parole. Et si dans ce dernier paragraphe du chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, nous avons la grâce, nous avons la miséricorde et le secours donné au moment opportun, il semblerait, et il nous aurait semblé peut-être cohérent, de présenter la parole comme étant la parole de consolation, la parole d'encouragement, de parler de la consolation des Écritures. Mais, si nous faisons attention à ces expressions, nous voyons que la parole est vue là, dans ce chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, d'une manière un peu différente. La parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et elle discerne les pensées, les intentions du cœur. Telle est la parole. En sanctification, pour juger, pour discerner tout ce qu'il y a dans nos cœurs, tout ce que nous voudrions peut-être cacher à ceux qui nous entourent, ceux avec lesquels nous nous réunissons, frères et sœurs, nous camouflons certains de nos actes, certaines de nos pensées, sous une apparence que nous souhaitons être la meilleure possible, mais Dieu juge, le Seigneur juge, la parole discerne, elle va jusqu'au plus profond, et même quand ce sont des choses contre lesquelles nous aurions, à la limite, nous faire illusion à nous-mêmes, des choses que nous voulons oublier, des choses que nous ne voulons pas exprimer devant notre Dieu et Père, confessant toutes choses, et bien, même aussi dans ce cas-là, la parole est là, vivante, opérante. Dans l'Apocalypse, premier chapitre, le disciple, l'apôtre Jean, se retourne pour voir celui-là qui est semblable au Fils de l'homme, et comment est-il, de ses yeux sort une flamme de feu, de sa bouche une épée aiguë à deux tranchants, et il se tient là, au milieu des 7 lampes d'or, qui nous parle de l'Église, de l'histoire de l'Église, responsable sur la terre, tout ce dont il va être question dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Il se tient au milieu des 7 lampes d'or, et il discerne, et il juge tout ce qu'il y a dans cette histoire
selon la responsabilité qui a été confiée à l'Église. Il marche avec chapitre 2 de l'Apocalypse. Il marche avec les encore. Encore cette pensée qui est là devant nous dans le psaume 23. Christ avec nous. Christ avec son assemblée sur la terre, participant en sympathie aux souffrances de l'assemblée de Sion, par exemple. L'assemblée de la souffrance et de la tribulation. Mais il est là, quoi qu'il en soit, avec ses caractères, avec une voix de grandes eaux et une voix de trompette. Ce n'est pas toujours la voix douce de l'ami qui parle dans le chemin, comme dans le chapitre 24 de Luc. Ce n'est pas toujours cela, celui auquel nous avons affaire. C'est aussi la voix de grandes eaux. C'est aussi cette parole vivante et opérante qui nous sonne et qui nous pénètre, qui nous juge. Et c'est la troisième clé par laquelle nous entrons dans le sanctuaire. C'est Jean 13. C'est le lavage d'eau par parole qui nous débarrasse des souillures contractées dans le chemin. C'est Éphésiens 5 également. Par quoi l'Église, purifiée et sanctifiée, peut jouir des soins de Christ, la nourrissant et la chérissant tendrement, la parole. Premièrement donc, la foi. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Troisièmement, la parole. L'attitude, s'abaisser. Le chemin, nouveau et vivant. Le corps, lavé d'eau pure. Le corps, tout net. Alors, nous avons une part avec Christ. Alors là, dans le sanctuaire, nous pouvons d'abord, selon Hébreux 4, recevoir le secours qui nous est nécessaire dans le chemin. La grâce, la miséricorde pour avoir du secours pour le manteau. C'est une des premières conséquences du sanctuaire. Nous allons aller un peu vite parce que l'heure tourne. La deuxième chose que nous trouvons dans le sanctuaire, c'est la compréhension, l'intelligence, tout au moins partielle, des pensées du Seigneur quant au service. Nous avons rappelé de mémoire le chapitre 3 du livre de Ruth. Il te fera connaître. Et Ruth, tout doucement, découvre les pieds de Boaz. Comme si, en quelque sorte, en agissant ainsi, elle découvrait le secret de la marche de Christ ici-bas. La manière dont nous avons à marcher, nous le lisons dans la première épître de Jean également, c'est la manière dont lui-même a marché. Alors, nous entrons tout doucement dans le sanctuaire. Nous découvrons ses pieds et nous restons là, couchés, en pleine dépendance, comme sans force. Parce que toute la force doit venir de lui pour marcher et pour servir. C'est la dépendance, c'est la communion. Il te fera connaître tout ce que tu as à faire. C'est un côté chose. L'autre côté, Boaz le dit à Ruth, tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Ainsi, dans le service, si nous pensons quelquefois faire quelque chose, c'est le Seigneur qui le fait. Nous venons à ses pieds, nous lui demandons ce qu'il y a à faire. Il te le fera connaître, oui. Nous découvrons ses pieds, la manière dont il a marché, et puis, dans le chemin, je le ferai. C'est lui qui agit, c'est lui qui opère, ce n'est pas moi qui parle, c'est sa parole. Il est là, il s'adresse à chacun. L'intelligence de ses pensées pour le service, l'intelligence aussi de la manière dont il agit, c'est Jérémie 18. Entendre les paroles de l'Éternel et le voir à l'œuvre. Cette main qui forme le vase. Eh bien, cela c'est quelque chose que nous comprenons dans le sanctuaire. Quelquefois il y a des difficultés, des souffrances, et on dit souvent, et le pourquoi. Nous aurons tout là-haut, bientôt, la réponse à ces pourquoi. C'est vrai, nous aurons toutes les réponses, mais plaise à Dieu que déjà, entrant dans le sanctuaire, dans cette attitude d'abaissement, plaise à Dieu que déjà nous ayons quelques réponses au pourquoi de la souffrance, au pourquoi du deuil, au pourquoi de l'accident, au pourquoi de la maladie. Dieu n'est pas un Dieu cruel qui nous fait souffrir sans motif, et il y a une leçon à prendre, il y a quelque chose à apprendre. Même quand je marcherai, alors là nous avons encore un autre temps, c'est le conditionnel. Même s'il se faisait que j'ai à marcher par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Voilà un des motifs, voilà une des réponses à ces pourquoi que l'on se pose. Quand il y a un deuil, quand il y a la vallée de l'ombre, de la mort à traverser, peut-être, c'est le conditionnel, la houlette, le bâton nous console. C'est-à-dire, la consolation, c'est non seulement le fait d'essuyer les larmes, cela se trouve dans la parole, mais c'est aussi une notion qui nous rapproche du salut dans son aspect présent, comme nous l'avons dans le premier chapitre de la première épître aux Corinthiens, pour votre consolation et votre salut. Qu'est-ce que c'est que ce salut ? C'est le fait de réaliser toujours davantage l'affranchissement. C'est le fait de réaliser toujours davantage que nous sommes débarrassés de nous-mêmes et ce que nous avons en Christ, par l'Esprit de Christ qui habite en nous. Je voudrais relire Romains 8, passage et portions que nous connaissons bien. Mais voilà aussi ce que c'est que la consolation. Non seulement essuyer les larmes, mais aussi nous rapprocher. Nous rapprocher de Christ, nous débarrasser de nous-mêmes, nous dépouiller petit à petit de tout ce qui est une entrave dans le chemin. Eh bien, n'est-ce pas une réponse que nous avons en entrant dans le sanctuaire, une réponse à ces pourquoi que nous nous posons quand il y a quelque chose qui nous arrête ou qui nous fait souffrir. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui nous consolent. Voilà quelque chose que nous apprenons dans le sanctuaire. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui nous consolent. Voilà quelque chose que nous apprenons dans le sanctuaire. Donc, premièrement, la grâce est brocade. Deuxièmement, l'intelligence des pensées du Seigneur quant à notre marche, quant à notre service. Troisièmement, l'intelligence de ce qu'il fait quant au vase qu'il forme lui-même. Et puis, nous avons encore une conséquence de notre jouissance de Christ dans le sanctuaire, de la communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ, c'est le but. Alors là, quand même, on s'arrêter un peu parce que c'est très important. Dans la plupart des cultes qui sont présentés à Dieu, nous contentons peut-être d'un premier degré, d'apporter des actions de grâce, de la reconnaissance, des sentiments de nos cœurs renouvelés, mais nous n'allons pas plus haut. Et certes, les actions de grâce font partie du culte, elles ont leur place dans le culte. Quoique ayant davantage de place peut-être dans la réunion de prière où nous présentons des requêtes avec des actions de grâce, ayant aussi la place dans la réunion d'édification parce que nous rendons grâce pour ce que nous recevons par le ministère de la parole du Saint-Esprit, mais dans le culte, il devrait toujours y avoir autre chose qui découle justement de notre communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ. La communion est d'une part notre association à Christ, soit comme homme ressuscité, soit comme fils, soit comme roi, soit comme sacrificateur. C'est un premier côté de la communion. Le deuxième côté, c'est la jouissance de ce que nous pouvons trouver en Christ, de ce que nous pouvons trouver dans le Père. Mais plus précisément, la jouissance des pensées du Fils à propos du Père, la jouissance des pensées du Père à propos du Fils. Des pensées, des affections, de l'amour, de l'un à l'égard de l'autre. Et ce que nous devrions toujours saisir dans le culte, justement par l'esprit, et ayant habité le sanctuaire, nous devrions toujours saisir ce que Dieu attend de l'assemblée, de cet ensemble de sacrificateurs qui sont là réunis avec celui qui en est le souverain sacrificateur, et lui présenter ce qu'il trouve lui-même dans son Fils. Et nous devrions entrer davantage dans ce qu'est la part de Christ. Oui, nous sommes sauvés, oui, nous sommes délivrés. Action de grâce, reconnaissance. Mais lui aussi a été sauvé, lui aussi a été délivré. Nous rappelions tout à l'heure quelques expressions du psaume 22. Délivre-moi, tu as répondu. Le voilà devant les siens, Jean 20, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Et j'annoncerai son nom à mes frères, quelle est la voix de Christ. Présentement, dans l'assemblée, au milieu de 2 ou 3 assemblées à son nom, mais quelle a été sa joie sur la terre? Quand il a vu tout rendement dans le chemin, on pourrait détailler ce sujet, il est très vaste, mais jusqu'à la croix, quand il était entre 2 malfaiteurs, et qu'avant d'entrer dans la solitude effroyable des 3 heures de ténèbres, l'un d'entre eux a confessé publiquement ce qu'il était. N'est-ce pas une joie pour le cœur de Christ? Et quand ayant accompli l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire, il a pu dire « c'est accompli ». N'est-ce pas une joie pour lui? Et quand il se présente devant les siens, comme s'il n'avait rien de plus pressé que de se manifester à ceux qu'il a laissés tout à l'heure. Entrez davantage dans la part de Christ, dans sa joie, dans sa gloire, dans ce qu'il a été et dans ce qu'il est pour Dieu lui-même. Voilà la substance élevée du culte. Voilà ce qu'il convient d'offrir à Dieu comme étant son pain, son sacrifice par feu, comme nous lisons au début du chapitre 28 du livre des Nombres. Voilà ce qu'il convient de présenter à Dieu. Alors là, nous sommes débarrassés de nous-mêmes. D'ailleurs, dans le sanctuaire, nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas debout que nous entrons, ce n'est pas avec la chair, ce n'est pas avec nos propres pensées, c'est débarrassé de tout cela. Nous sommes débarrassés de nous-mêmes, de tout ce qui nous concerne, et nous présentons à Dieu un sacrifice intelligent, conduit par le Saint-Esprit. C'est cela qui lui revient. Nous pourrions encore considérer ce que nous pouvons trouver dans le sanctuaire quant au service qui nous incombe l'un par rapport à l'autre, en soi. 1 Corinthiens 12, ayant un égal soin les uns pour les autres, ou bien ayant une charge locale pour paître le troupeau, devant distribuer et la nourriture et les soins nécessaires à chacun. Et c'est dans le sanctuaire qu'il y a la feuille pour guérir et le fruit pour nourrir. Ces arbres qui sont plantés auprès de la rivière de la grâce et qui donne ce qui est nécessaire. Nous avons cette pensée dans Ézéchiel 47, dans Jérémie 17 également. Et non seulement les soins individuels, non seulement les soins locaux, mais encore le don de pasteur qui s'adresse à l'ensemble du corps. Tout cela, tous les éléments qui sont nécessaires pour accomplir ces soins à l'égard des brebis, nous les trouvons dans le sanctuaire, et il est intéressant de développer ce que nous pouvons trouver et comment exercer ces soins par d'autres exemples pris dans la parole. Il y aurait bien d'autres choses à dire dans le sanctuaire. Quand même ajouter que le premier verset qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » nous présente justement ce qui est fait de nous dans le sanctuaire, je ne manquerai de rien. C'est bien sûr, en quelque sorte, au premier degré, le fait que nos besoins sont comblés. Et les brebis de Jean 10 ont de tout en abondance. Elles suivent celui dont elles connaissent la voie. Elles n'ont rien à demander. Elles ne demandent rien, ces brebis. Et on peut dire qu'à cet égard, dans le sanctuaire, nous n'aurions peut-être pas de besoin exprimé sinon pour intercéder pour les autres. C'est les premiers sens que nous pouvons trouver à propos de cette expression. Le deuxième, c'est à rapprocher de ce que nous avons dans l'épître de Jacques au premier chapitre. Un homme parfait, accompli, ne manquant de rien. Qu'est-ce que c'est que cette perfection? Cette perfection présente, cette perfection pratique, c'est l'homme identifié à l'homme Christ Jésus. Le souhait de l'apôtre dans l'épître aux Colossiens de présenter tout homme parfait en Christ, un homme accompli, un homme ne manquant de rien. Eh bien, cela aussi, c'est pour nous-mêmes une conséquence dans le sanctuaire, identifié à l'homme Christ Jésus. Disons, en terminant, que toutes les choses dont nous aimons à parler, parce que, je le répète, elles sont la source de tout, la source de la joie, la source de la force, la source de vos services, et encore bien d'autres choses. Toutes ces choses dont nous aimons à parler sont extrêmement élevées. Et on pourrait répéter avec certaines expressions de la parole que c'est un rocher trop haut pour moi. Connaissance trop merveilleuse que je n'y puisse atteindre. Alors oui, il faut rappeler quelque chose. Il faut rappeler quelque chose à ce sujet. C'est que les arbres, Ézéchiel 47, ils sont au bord du fleuve. Que dans le chapitre 8 de Luc, la femme a touché le bord des vêtements. Et puis que dans le livre d'Esther, cette femme admise à la faveur du roi, touchait aussi le bout du sceptre. Eh bien, c'est ce qui nous caractérise, n'est-ce pas? Si même nous sommes admis par le Saint-Esprit à considérer ces choses dans leur plénitude, dans leur richesse insondable, qui sont même les richesses insondables du Christ, nous restons toujours en attendant la gloire, en attendant la maison du Père, nous restons toujours au bord.